13h.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée à la une, acte 10 de la mobilisation des Gilets jaunes. Nous serons près des Invalides à Paris. Pour l'instant, le cortège se déplace dans le calme. Nous irons aussi en région à Strasbourg où les manifestants, vous l'entendrez, ne sont pas du tout convaincus par le grand débat national. Grand débat qui se poursuit tout le week-end. Au moins 200 réunions publiques prévues entre samedi et dimanche. Hier soir, nous étions à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. La colère du délégué interministériel à la sécurité routière, la dégradation des radars par les Gilets jaunes va coûter des millions. Voilà ce qu'il a dit ce matin sur Europe 1. Avec mon invité Salomé Berlioux, nous parlerons des invisibles de la République, cette jeunesse oubliée dans la France rurale dont la parole pourrait être si précieuse dans le grand débat qui s'ouvre. Nouvelle mise en examen d'Alexandre Benalla, la troisième, c'était hier soir, cette fois dans l'affaire des passeports diplomatiques, à 2 jours de son audition au Sénat. La journée des sports, le PSG de retour du Qatar qui affronte Guingamp au Parc cet après-midi, ce sera à 17h. Et puis la météo, ça ne vous a sûrement pas échappé, c'est l'hiver, il fait froid.
Europe 1.
Nouvelle journée d'action donc des Gilets jaunes, 10e samedi. La semaine dernière, la mobilisation était en hausse. Toute la question est de savoir si le lancement du grand débat national va avoir un impact sur le nombre de manifestants. À Paris, c'est aux Invalides que les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous cette fois. Rémi Botsaron, vous êtes sur place et il y a encore pas mal de monde.
Oui, un cortège de quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui se déplacent dans le froid et dans le calme le long des Invalides. On est parti il y a quelques minutes. On est parti pour une longue manifestation sur la rive droite parisienne avec les mots d'ordre habituels qu'on peut voir depuis plusieurs semaines maintenant sur les pancartes pour le RIC, pour le pouvoir d'achat par exemple. Et peu importe que le grand débat ait été lancé cette semaine par Emmanuel Macron, beaucoup n'en attendent absolument rien à l'image d'Éric.
C'est pas pour nous, je pense. C'est pas pour nous. Je suis pas pour les Gilets jaunes. Enfin, je pense que tu peux les interroger tous là. Je pense que tout le monde rigole un petit peu, quoi. Quand je vois les forces de l'ordre qu'il a engagées hein, pour à chaque ville où il a été, moi, je pense que c'est du grand cinéma, ça. Pour se faire bien, pour il veut remonter dans sa popularité, je pense, Macron. C'est tout.
Voilà, toujours cette défiance à l'égard du président de la République. En fait, on se rend compte que même les promesses prononcées au mois de décembre pour le pouvoir d'achat, eh bien, ces promesses ne sont pas crues du tout. Il n'y croit pas, ça n'a pas imprimé dans l'esprit de Corinne, par exemple. Elle-même touche le SMIC et elle n'attend rien du coup de pouce promis par le chef de l'État.
Pour moi, c'est des clopinettes, c'est rien. On nous donne quelque chose, mais on nous enlève autre part. On va voir, on a une augmentation, il paraît. Eh bien, on va voir. Non, j'y crois pas. Il nous a tellement menti. J'ai pas confiance en lui. Ni en lui, ni aux personnes qui sont au gouvernement. On nous prend de haut, on nous méprise.
Alors comment le président pourrait-il répondre à ces derniers gilets jaunes toujours mobilisés aujourd'hui? Mais la réponse est simple pour eux, on la voit un peu partout sur leurs gilets jaunes, sur les pancartes. Macron, démission, ils n'attendent que ça, la démission du chef de l'État.
Rémi Botsaron à Paris pour Europe 1, direction maintenant Strasbourg, place de la République. Ils sont une centaine de gilets jaunes à manifester depuis ce matin. Charlotte Béchler, vous êtes sur place, le froid ne les a pas dissuadés de venir parce que là aussi, ils ne sont pas convaincus par la tournée entamée par Emmanuel Macron pour lancer le grand débat national.
Et puis Fabienne, ici, personne n'en est convaincu. Gilets jaunes sur le dos, pancarte à la main. Françoise est là depuis le début de la mobilisation. Elle a suivi la tournée d'Emmanuel Macron auprès des maires. Une mauvaise idée pour elle. Elle demande plutôt à ce qu'ils viennent dans les cortèges plutôt qu'auprès des élus.
Quand je dialogue avec quelqu'un, déjà, je le regarde face à face. Il a mis je ne sais combien de temps avant de dire gilets jaunes. Moi, je suis pour le dialogue. Mais qu'ils viennent nous rencontrer, pourquoi ils nous ignorent depuis le début? Ils disent qu'on vienne me chercher, bon, c'était pour l'affaire Benalla, c'était autre chose. Ben, oui, on veut bien, mais on veut bien nous, on le guillotine pas.
Arnaud est étudiant à Strasbourg et chaque samedi il se bat contre la vie chère. Le grand débat national, il n'y croit pas non plus, c'est de la poudre aux yeux, dit-il.
Ce truc de débat national, c'est l'enfumage où en fait il va vous dire c'est très bien ce que vous dites, mais je continuerai à faire mon programme. Comme en plus il a dit qu'il ne viendrait pas sur tout ce qui était passé. Du coup bon, c'est juste de dire ouais, je vous ai entendu, mais je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire.
Cyril lui est même convaincu que cette tournée des maires vise à éclipser la mobilisation des gilets jaunes.
Bah, c'est un coup médiatique, c'est pour qu'on évite de parler du peuple qui est mobilisé.
Donc il descend comme un roi, il fait la tournée des villes, c'est très Louis XIV. Quoi.
Le grand débat national était d'ailleurs à l'ordre du jour ce matin et tous s'accordent sur une chose, c'est de la communication en vue des européennes.
Et Charlotte Bechler à Strasbourg pour Europe 1. On verra ce soir quelle est la mobilisation nationale pour cette nouvelle journée d'action. La mobilisation était en hausse la semaine dernière par rapport aux journées précédentes. Une nouvelle fois, dispositif maximal de sécurité déployé, 80 000 hommes et femmes des forces de l'ordre. Alors ces dernières journées de mobilisation ont été marquées par des violences, entre autres contre les journalistes, d'où la décision de Reporters sans frontières de lancer une pétition pour défendre la liberté d'informer, au même titre que la liberté de manifester. Une pétition qui dénonce à la fois les violences, quels que soient les auteurs, comme l'a expliqué à Hélène Terzian, Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF.
Le niveau de violence, il n'a cessé de croître au cours des manifestations. Il y a d'un côté des violences policières, des violences parfois non nécessaires contre des journalistes, et certains en ont témoigné de manière très claire. Et puis il y a des violences croissantes de la part de manifestants. Alors ça n'est évidemment pas tous les policiers d'un côté, pas tous les manifestants de l'autre, mais c'est une atteinte de plus en plus grave au droit d'informer. Et ce que les représentants de rédaction sont venus dire ce matin, c'est que le droit d'informer, le droit de manifester, et puis à la fin, le suffrage universel, tout ça, c'est des droits qui concourent à la démocratie et que quand on a des revendications démocratiques ou quand on prétend défendre la démocratie, on doit au moins en respecter les droits fondamentaux et qu'évidemment, la liberté d'informer, le droit d'informer en est un.
Christophe Deloire, secrétaire général de RSF avec Hélène Terzian. Alors parmi les sujets qui mettent en colère depuis plusieurs semaines les Gilets jaunes, il y a les 80 km/h, ce qui a conduit certains manifestants à dégrader les radars. 60% des radars seraient concernés, trois fois plus qu'en 2017. C'est ce que dénonçait ce matin sur Europe 1 Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière.
Ça va coûter des centaines de millions. C'est des technologies pour la procédure pénale, donc c'est très coûteux. Et puis ensuite, il y a des personnes qui ne sont plus verbalisées, donc des recettes en moins. Et évidemment, c'est de l'argent public puisque c'est des biens publics. Donc moi, je le dis, ceux qui cassent un radar se font eux-mêmes du préjudice. Ils augmentent le niveau d'insécurité sur nos routes. Et puis, tout ça sera réparé avec de l'argent public. De toute façon, c'est aussi leur argent. J'ai vu il n'y a pas très longtemps des courbes dans un département que je ne citerai pas, où on voit vraiment la corrélation entre destruction des radars et augmentation. Donc moi, je le dis le plus clairement du monde, ne nous réjouissons pas.
Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière qui était l'invité de Bernard Poirette ce matin sur Europe 1. Cette nouvelle journée de mobilisation coïncide donc avec l'organisation de nombreux débats à travers toute la France. Plus de 200 réunions publiques rien que pour ce week-end, la plupart du temps organisées par des mairies. C'était le cas hier soir à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise. Une cinquantaine d'habitants avaient répondu à l'appel. Sur place pour Europe 1, Justin Morin.
Dans la salle des mariages, le maire reste en retrait, les habitants ont pris le pouvoir. Autour des six tables, plus une chaise de libre et déjà beaucoup d'idées.
Là c'est parti, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de règles. Chacun est libre de s'exprimer comme il le souhaite.
Colette Boulet, habitante organisatrice, se réjouit de l'animation, même si elle aurait préféré qu'il y ait plus de jeunes. Chaque groupe a 45 minutes pour discuter et remplir sa copie. Ici on parle glyphosate.
Oui. Sera retiré dans deux ans, c'est
deux
ça
ans, ils ont voilà. Deux ans, ouais.
C'est déjà voté par rapport au Parlement européen.
On va faire un vote.
Non, on n'est pas d'accord là.
À la table d'à côté, on s'écharpe sur le logement.
Il est inconcevable que le loyer prenne plus de 45% du revenu net. Moi, président de la République, je fixe les loyers.
Oscar, 63 ans, distille ses propositions. Plafond pour les hauts salaires, stop au tout numérique, plus d'éducation au tri.
Une telle occasion, il ne faut pas la rater. Et c'est là, sur place, que je me dis, mais il y a vraiment à dire.
Les 45 minutes sont écoulées. Chaque groupe partage alors ses propositions qui seront remises telles quelles à la préfecture.
En espérant que ça serve à quelque chose. Parce qu'avoir tout fait ça, pourquoi ? On ne sait pas si ça mène à rien.
Sentiment partagé par beaucoup de participants. Eux ont en tout cas le sentiment d'avoir joué leur rôle.
Et ce grand débat national, on y reviendra largement dans Tout Terrain à partir de 13h. Vous verrez que pas mal de gilets jaunes, à l'image des manifestants aujourd'hui, s'interrogent sur le fait d'y participer ou pas. Et nous verrons aussi comment cela s'organise concrètement sur le terrain dans les autres communes. À suivre, nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla, la troisième, cette fois dans l'affaire de ses passeports diplomatiques.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
12h40, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et une mise en examen de plus pour Alexandre Benalla, la troisième. Cette fois, c'est pour l'affaire des passeports diplomatiques qu'il a continué à utiliser après son licenciement de l'Élysée. Mise en examen notifiée hier soir par un juge après 24 heures de garde à vue. Et cela intervient alors qu'il doit être entendu lundi une nouvelle fois par la commission d'enquête du Sénat. Mais Pierre de Cossette, en tout cas, il n'a pas été mis en examen pour faux, malgré ce que disait l'Élysée cette semaine.
Oui, la petite bombe lancée par le directeur de Patrick Stroda devant le Sénat mercredi, accompagnée d'un signalement au procureur, n'ont pas, pour l'instant, été suivies des faits. L'Élysée prétend que Benalla a obtenu un passeport de service grâce à un faux. Eh bien, à ce stade, ce n'est pas établi pour les juges, et c'est ce que retient l'avocate d'Alexandre Benalla, Jacqueline Lafont. Surprise que ces accusations aient été formulées la veille seulement de la convocation de son client devant les enquêteurs.
J'ai été très étonnée de ce timing, et l'étonnement était important dans la mesure où, si l'on doit croire la thèse du faux, ce faux était connu depuis juillet ou depuis août. Bon. Donc il est un petit peu étrange qu'un article 40 ait été déposé le 16 janvier. La seule chose que l'on sache, c'est qu'il y avait des accusations qui ont été portées et elles ont été considérées comme insuffisantes pour pouvoir constituer les indices graves ou concordants qui sont requis par la loi. Et les juges d'instruction ont pris la décision qui, à mon avis, s'imposait dans ce dossier qui, pour ce qui me concerne, ne tient pas du tout.
Alors, selon nos informations, Alexandre Benalla a quasi systématiquement refusé de répondre aux policiers durant la garde à vue. On attend maintenant de voir son attitude après-demain au Sénat, une commission d'enquête qui devra l'interroger sans marcher sur les plates-bandes de la justice et qui lui demandera peut-être qui, à l'Élysée, lui a soi-disant restitué ses passeports diplomatiques en octobre. Question à laquelle Benalla a refusé de répondre devant la PJ.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Allez, on commence avec du tennis direction l'Open d'Australie. C'est à Melbourne et il n'y a plus qu'un seul Français en lice.
Lucas Pouille qui est sur le court en ce moment face à un joueur invité pour le tournoi, l'Australien Alexei Popirin. Christophe Taureau, vous êtes notre correspondant sur place et bon, pour l'instant ça se passe pas trop mal pour le Français.
Plus que bien pour Lucas Pouille, vous le disiez, le dernier Français en lice dans cet Open d'Australie. Pouille mène 2 manches à rien, 7-6, 6-3. Et les deux joueurs ont attaqué la troisième manche il y a un petit quart d'heure. Il y a 3 jeux partout entre les deux hommes, mais Pouille vient d'obtenir une balle de break qu'il a ratée. Le match a été extrêmement équilibré au début et Pouille a réussi à faire la différence en fin de première manche pendant le tie-break. Et puis dans la deuxième manche, il a creusé l'écart dès le cinquième jeu, prenant enfin le service de son adversaire, ce qui, je peux vous dire, n'est pas évident parce que ce jeune Popirin envoie du très très lourd au service. Il mesure 1m96. 1h54 de jeu sur cette Margaret Court Arena. 7-6, 6-3, Pouille dans les deux premiers sets. 3 jeux partout dans la troisième manche. Le vainqueur de ce match affrontera en huitième de finale le Croate Borna Koric, 11e mondial, récent vainqueur de la Coupe Davis face à la France.
Et ça s'annonce plutôt bien. Merci Christophe Taureau. Pierre Hugerbert, un autre Français en revanche, sèchement battu cette nuit. Qualification chez les hommes de Djokovic et Nishikori notamment. Chez les dames, Simona Halep, Serena Williams ou encore Madison Keys se qualifient également.
Football, les 21e journée de Ligue 1, aujourd'hui le PSG en quête de revanche.
Et oui, Paris, éliminé en coupe par Guingamp récemment, va recevoir les Guingampais, donc en championnat cette fois. Ce sera à 17h au Parc des Princes, les Parisiens de retour de leur stage hivernal au Qatar et qui veulent, Julien Froment, montrer les crocs contre l'opposant du jour.
L'adversaire Guingamp, eh bien le Paris Saint-Germain veut absolument le battre, question d'honneur. Les joueurs n'ont pas du tout digéré les 3 pénaltys concédés et l'élimination en Coupe de la Ligue. Julian Draxler a d'ailleurs fait sentir qu'il y aurait des comptes à régler. D'ailleurs, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel l'a annoncé, il alignera la meilleure équipe possible, un groupe quasi au grand complet, excepté le forfait du défenseur Presnel Kimpembe, toujours blessé aux adducteurs, et Adrien Rabiot, mis à l'écart par la direction, avant de faire tourner en Coupe de France mercredi prochain face à Strasbourg.
Et puis les autres affiches ce soir, Nîmes-Toulouse, Monaco-Strasbourg et Reims-Nice. Côté foot féminin, la France reçoit les États-Unis ce soir au Havre, l'une des meilleures nations au monde. Le stade sera plein, 25 000 personnes, c'est plus que pour les matchs du club habituellement. Corinne Diacre, l'entraîneuse, en est d'ailleurs ravie.
C'est vrai que le stade va être à guichet fermé maintenant. Ce qui serait bien, c'est que l'on ait tous les spectateurs, supporters, surtout de l'équipe de France. Je pense qu'on en aura alors besoin. Oui, c'est vrai que les joueuses aiment bien être supportées, encouragées. On parle souvent de cette 12e femme que je mets au féminin, bien évidemment. Et puis si ça pouvait être une répétition également pour les matchs de la Coupe du Monde, ça peut être une bonne chose.
Corinne Diacre, donc match à suivre à 20h45 sur Europe 1. Je termine avec un mot de hand,
oui.
Simplement à 18h. La France débute son deuxième tour, le tour principal, contre l'Espagne, qu'il avait battu il y a un an.
Voilà, on espère que la France va continuer sur sa lancée. Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à voir le temps de ce samedi. Et décidément, c'est un week-end bien hivernal, Elena Morna.
Ah, je vois que vous avez eu froid, Fabienne, ce matin. Faut dire qu'on a eu les plus fortes gelées de la saison avec moins 18 degrés à Mout dans le Doubs. Alors, ça n'évolue pas vraiment hein, cet après-midi avec au mieux 1 degré à Langres, 3 à Lille et Strasbourg, 4 à Rouen et Paris, 6 à Blois et Lyon, 9 à Clermont-Ferrand, 10 à Nantes et Toulouse, 11 à Brest et Bordeaux, 12 à Nîmes et Marseille, jusqu'à 14 quand même pour Hendaye. Côté ciel, on a une perturbation faiblement pluvieuse qui circule entre les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre et l'Auvergne cet après-midi. Quelques flocons possibles encore en pleine sur le nord de la Seine. Sur le massif central, la limite plus neige se situe à 1000 mètres et on pourrait avoir un saupoudrage sur le réseau autoroutier. Soyez prudents. Plus à l'est, de belles éclaircies avant l'arrivée des pluies prévues cette nuit. Un bémol nuageux sur la Corse avec quelques averses, de la neige à 1000 mètres. À l'ouest, retour des éclaircies timides hein, cet après-midi, surtout sur le littoral atlantique, c'est là qu'on en aura le plus. Éclaircies aussi sur le piémont pyrénéen. Et puis demain, les petites pluies s'étendront du sud-ouest aux régions de l'est avec de la neige en pleine entre la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace. On aura encore froid, mais pas autant qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Elena Morna. À suivre, le grand débat national est donc lancé. On en parle dans un instant avec mon invitée Salomé Berliouk. Elle vient d'écrire un livre passionnant, Les Invisibles de la République, ou comment une partie de la jeunesse française en zone rurale est totalement oubliée de la République.
Il est 12h50, le journal se poursuit sur Europe 1 avec vous Fabienne Lemoyle et votre témoin de la semaine.
L'acte 10 donc de la mobilisation des Gilets jaunes, alors que l'on a commencé à débattre à travers toute la France, plus de 200 réunions publiques rien que ce week-end. Et il y a un livre particulièrement éclairant à l'heure de ce grand débat qui montre l'urgence à agir. Il s'appelle « Les Invisibles de la République », celui que vous venez d'écrire aux éditions Robert Laffont. Salomé Berliouk, bonjour.
Bonjour.
Livre coécrit avec Éric Maillard. Vous avez enquêté pendant des mois sur ces jeunes oubliés de la République, dites-vous, qui vivent dans les zones rurales, qui n'ont pas les mêmes chances de réussite, tout simplement parce qu'ils vivent trop loin des villes. Ce sont donc les invisibles. Ce sont en quelque sorte les enfants des Gilets jaunes.
C'est sûr que le livre a été écrit bien avant la crise des Gilets jaunes. En revanche, il paraît dans un contexte particulier, avec des revendications particulières. Nous, ce sur quoi on insiste bien, c'est sur le fait qu'il ne faut pas caricaturer ces jeunes, d'autant plus qu'ils sont invisibles, donc en essayant de les mettre en lumière.
Où vivent-ils ?
Ce sont des jeunes qui grandissent à la fois dans les zones rurales, dans les petites villes, dans les villes moyennes aussi. En fait, c'est dans ce qu'on appelle la France périphérique. Et ça, c'est 60% des jeunes Français qui vivent dans ces territoires-là. Plus d'un jeune Français sur deux qui habite dans la France périphérique et qui cumule les obstacles. Parce qu'en fait, c'est ça qui réunit à la fois des jeunes qui grandissent dans les Vosges, dans le centre de la France ou dans les Pyrénées-Orientales. C'est cette accumulation d'obstacles qu'ils affrontent.
Quels obstacles ?
C'est notamment l'assignation à résidence, c'est-à-dire
mot
les difficultés, mot très fort, et qu'on assume vraiment parce qu'on le voit dans les territoires dans lesquels on intervient avec l'association Chemin d'Avenir, qui a aussi beaucoup nourri nos recherches
après.
À Erki Maillard et à moi.
Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ?
Parce que se déplacer est plus compliqué. Parce que leurs territoires peuvent être vraiment éloignés des grandes métropoles, et que dès lors, quand on grandit à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, et qu'on a envie tout à coup de faire médecine, eh bien, aller étudier à Montpellier, qui est à 2 heures de train en fac de médecine, c'est compliqué, ça coûte cher. Et aussi, on n'a pas forcément de modèle autour de soi qui l'ait fait auparavant.
Parce que ce qui est édifiant dans ce que vous dites, c'est que quand on est enfant d'ouvrier en banlieue, on a deux fois plus de chances, je dis bien de chances, de gravir l'échelle sociale que quand on vient de Poitou-Charentes. La fracture n'est pas sociale, pour vous, elle est vraiment territoriale.
Il y a une fracture territoriale avec cette accumulation d'obstacles, avec l'autocensure, avec l'assignation à résidence, le manque d'informations, avec le manque parfois d'opportunités, des opportunités académiques, des opportunités professionnelles à proximité, avec la fracture digitale aussi. Et il ne s'agit absolument pas d'opposer les territoires, bien au contraire d'ailleurs. On essaye vraiment d'avoir la démarche inverse et de dire qu'il faut aussi s'inspirer des initiatives qui existent pour certains jeunes et de les déployer pour d'autres. Par exemple, le système de mentorat un mentorat individuel.
Ce que vous faites dans votre association Chemin d'Avenir, c'est-à-dire, vous parlez d'autocensure. Souvent, les gens, ces jeunes se disent « Non, moi, je n'y arriverai pas, c'est même pas la peine que j'essaye. »
Exactement. Et en fait, on a pu voir, mais ça, on n'a vraiment rien inventé avec Chemin d'Avenir. On s'est inspiré de ce qui était très bien fait dans les quartiers prioritaires de la ville et à juste titre, parce qu'il y a vraiment des vrais défis à relever dans ces territoires-là. Mais le fait d'avoir pour chaque jeune, un parrain qui peut être d'un territoire différent, qui peut avoir une profession différente de celle de ses parents et qui tout à coup va jeter un regard neuf sur votre parcours et qui va vous donner confiance en vous, ça change les choses.
Et vous savez de quoi vous parlez parce que c'est votre histoire.
Oui.
Vous avez grandi dans un petit village de l'Allier.
Exactement, oui, j'ai grandi à côté de Lurcy-Lévis dans l'Allier, dans un petit hameau de 180 habitants. Et c'est vrai que dans mon cas, tout en ayant rencontré ces obstacles-là, à la fois le manque d'informations à certains moments clés dans mon parcours, les questions financières parce que j'étais boursière sur critères sociaux, l'autocensure évidemment, moi j'ai eu beaucoup de chance, notamment parce qu'il y a des gens qui ont parié sur moi, parce que mes grands-parents habitaient à Paris et que du coup j'ai pas eu à payer de logement quand je suis partie faire mes études supérieures. Mais c'est assez glaçant pour moi et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé avec Erki Maillard de fonder cette association et d'écrire le livre dans un deuxième temps. C'est assez glaçant de se rendre compte que mon parcours est aussi en partie dû à la chance. Et on ne peut pas uniquement s'en remettre à la chance quand il s'agit du destin de millions de jeunes Français.
Alors justement, ce grand débat qui s'ouvre, vous en attendez quoi ? On l'entendra tout à l'heure dans Tout Terrain à partir de 13h, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui y participent. Est-ce que justement, il ne faut pas qu'ils s'en saisissent ?
Absolument, il faut qu'ils s'en saisissent, il faut qu'ils soient encouragés à le faire, parce qu'on dit bien, c'est ce qu'on dit bien dans Les Invisibles de la République, c'est le fait que ces jeunes-là ont du potentiel, ont des envies, peuvent être volontaires et déterminés.
Il faut qu'on leur donne confiance.
Il faut aller les chercher, il faut les mettre en lumière, il faut s'associer. C'est pour ça que dans notre chapitre, on essaye de proposer beaucoup de solutions dans le livre aussi, de ne pas s'en tenir à un constat un peu alarmant et de proposer des choses. Et donc, une de nos logiques consiste à dire qu'il faut créer aussi un écosystème de réussite, c'est-à-dire s'appuyer sur toutes les initiatives qui existent déjà, sur des acteurs qui sont implantés localement, les élus locaux, l'éducation nationale avec laquelle on travaille, etc., au profit de ces jeunes.
Merci beaucoup Salomé Berlioux. On voit votre enthousiasme, votre énergie. Je rappelle le titre de votre livre, Les Invisibles de la République chez Robert Laffont. Et je l'ai appris en préparant cette interview. Vous faites partie des nominés des Trophées de l'Avenir organisés par Europe 1 dans la catégorie éducation. Ces trophées seront dévoilés le 11 février prochain. Alors je vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci. Et bien sûr, vous savez qu'on poursuit cette tranche d'information après 13h avec Tout Terrain. On reviendra justement sur ce grand débat national. On parlera aussi des manifestations, comment les policiers vit ces manifestations en répétition et puis toute la polémique qui est montée cette semaine sur évidemment l'usage des lanceurs de balles de défense.
Et Tout Terrain, Fabienne, c'est donc de 13h à 14h sur Europe 1. Ce sera juste après le rappel des titres de l'info.